Nicole Niesoto, bonjour.
Bonjour.
Dans l'Europe, changer ou périr, vous constatez que l'Europe va de crise en crise depuis quelques décennies et pour sortir de ce cycle, vous préconisez ni plus ni moins qu'un changement de modèle, une réinvention du modèle européen. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que depuis, disons, le début des années 2000, il y a eu la crise économique, la crise des réfugiés, la crise stratégique avec les premières guerres, en Géorgie et en Crimée, la crise du Covid. Et à chaque fois, l'Europe arrive à s'en sortir, elle surmonte cette crise. Elle surmonte d'ailleurs en général avec un surcroît d'intégration. Mais que finalement, ça ne change rien. C'est-à-dire, elle passe le cap, elle passe la vague. Ensuite, il y a une autre vague qui arrive, mais que l'Europe reste aussi mal aimée par les citoyens européens et aussi inefficace en termes d'assurer la croissance, qui est quand même son contrat de base. Et que donc, il y a une insatisfaction à la fois politique, citoyenne et au niveau des résultats de l'action de l'Union européenne. Alors l'idée, c'était de s'interroger sur le pourquoi. Est-ce que l'Europe est tellement nulle qu'elle n'arrive pas à trouver les bonnes solutions aux crises? Ou est-ce qu'il n'y a pas une raison plus structurelle? Et je crois, moi, personnellement, qu'il y a une raison plus structurelle, qui est
Vous
tout
remontez aux
simplement que...
origines, quoi.
Voilà,
Voilà.
c'est que l'Europe, quand elle a été créée au début des années 50, elle a été créée sur des principes qui correspondaient au monde des années 50, c'est-à-dire au début de la guerre froide, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe. Et donc, les principes de l'Europe des années 50 étaient parfaitement adaptés au monde dans lequel elle devait vivre. Je vais revenir dans un instant sur ces principes, mais aujourd'hui, en 2022, l'Europe continue de vivre sur ces mêmes principes, alors que le monde qui les avait suscités a totalement disparu et ne reviendra jamais. Et donc, je pense vraiment que c'est l'inadéquation entre l'ADN de l'Union, qui reste un ADN originel, et l'évolution du monde, qui, comme chacun sait, est spectaculaire. Tous les 6 mois, il se passe quelque chose qui change le monde. C'est cette inadéquation qui rend aujourd'hui l'Europe totalement inefficace. Et donc, quels étaient ces deux principes de base? C'est assez simple. Le premier, c'est de dire le commerce non seulement crée de la croissance et de la prospérité, mais est également un facteur de paix. C'est un peu du Montesquieu, le commerce adoucit les mœurs, et que plus il y a de mondialisation, quand celle-ci arrive en 92, 95, eh ben, plus il y aura de commerce, plus il y aura de prospérité, plus il y aura de paix universelle. C'est la foi profonde de l'Union européenne dans les vertus à la fois pacificatrices et les vertus économiques de l'interdépendance économique et commerciale.
Donc il est apparu très rapidement sur ce principe-là du commerce, facteur de stabilité, facteur de prospérité, que tout le monde ne profite pas de cette mondialisation.
Alors, cette croyance, elle a très bien marché dans les 30-35 premières années de la construction européenne, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, parce qu'effectivement, l'intégration économique entre les pays membres de l'Union européenne, les 6, les 12, les 15 et ensuite plus tard les 27, que cette intégration économique a assuré la paix et la prospérité à l'intérieur de l'Union. Et deuxièmement, à l'extérieur de l'Union, c'est vrai que l'Europe est devenue le premier acteur économique de la planète, premier acteur commercial, et qu'elle a développé avec l'ensemble de ses partenaires à l'Est et au Sud des relations d'interdépendance commerciale qui ont profité aussi économiquement aux partenaires. Donc tout ça a très bien marché pendant la guerre froide. Et puis, à partir du moment où la guerre froide disparaît, où la mondialisation devient la seule donnée du système international, c'est-à-dire le fait que les Chinois et les Russes rentrent dans l'économie libérale de marché, et à partir de ce moment-là, le monde change complètement. Et les Européens essayent de s'adapter avec le logiciel de base. Or, très vite, on s'aperçoit que cette croyance est illusoire. D'abord, première crise, la crise économique de 2008, qui montre que quand même la mondialisation n'est pas une assurance de prospérité indéfinie. Deuxième preuve, deuxième étonnement des Européens qui auraient dû déjà faire quelque chose, le Covid. Le Covid, qu'est-ce que la crise sanitaire nous montre? C'est que l'interdépendance économique, notamment avec la Chine, donc avec des pays qui ne sont pas des démocraties, cette interdépendance économique n'échappe pas à la géopolitique. qu'on peut pas dire que l'interdépendance économique avec la Chine en matière de médicaments, par exemple, est un facteur de paix. C'est pas vrai. La Chine, comme tout État qui a des ambitions de puissance, la Chine met de la géopolitique dans son commerce. Donc pour elle, le commerce est un moyen comme un autre de défendre ses intérêts sans pour autant aller vers une espèce de démocratie universelle. Donc les Européens se rendent compte tout d'un coup, avec le Covid, que l'interdépendance non seulement est pas un facteur de paix, mais en plus c'est une garantie de risque, puisqu'on ne pouvait plus fabriquer nos doliprane quand on s'est rendu compte que 99% de la matière première chimique dont on a besoin pour fabriquer des doliprane, la Chine les possède. Et donc ça a été un choc très très grand. Et puis le troisième choc sur ce principe, c'est depuis la guerre en Ukraine. Alors quand j'ai écrit le livre, la guerre n'était pas encore là, mais la guerre ne fait que renforcer ce sentiment que notre principe initial est dépassé complètement par l'histoire. Et bien que nous montre la guerre en Ukraine, c'est que l'interdépendance économique avec la Russie, en particulier sur l'énergie, le gaz, n'était pas un facteur de paix, puisque Poutine a attaqué l'Ukraine alors que c'était pas du tout son intérêt économique de le faire. Donc il y a la géopolitique qui est irréductible au commerce. Et deuxièmement, elle nous montre que notre dépendance énergétique au gaz russe n'est pas du tout, encore une fois, une garantie de rapprochement des sociétés, mais au contraire est une garantie de dépendance et donc de pénurie à venir, et qu'il est donc urgent de reconstruire une souveraineté européenne en matière énergétique, voire économique. Et ça, c'est donc une des premières conclusions du livre. Il faut changer ce premier principe qui est cette foi absolue, complètement naïve, dans les vertus du commerce mondial, avec cette idée que les rapports de force c'est mal, la géopolitique c'est mal, ce que montre la guerre en Ukraine, c'est que le modèle européen, ce modèle-là européen, est totalement faux.
Et à présent, on en vient à l'autre pilier de l'ADN de l'Union européenne qu'il faudrait modifier.
Alors, le second pilier est un pilier politique. Là encore, il faut revenir aux années 50, donc tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis étaient pour tous les Européens à la fois le sauveur et le reconstructeur de l'Europe. Le reconstructeur par le plan Marshall, le sauveur par la création de l'OTAN en 49. Et donc, le deuxième principe, c'était de dire... on va déléguer en toute souveraineté, c'est-à-dire sans aucune contrainte, de déléguer aux États-Unis toute responsabilité, toute réflexion, toute action dans le domaine de la sécurité et de la défense. Autrement dit, il y a une espèce de partage des tâches qui se fait en 54, où l'Union européenne s'occupe de la prospérité des citoyens européens, et puis l'OTAN, l'Alliance Atlantique, les États-Unis s'occupent de la sécurité des citoyens de l'Union européenne. Et ça aussi, ce deuxième principe, il a parfaitement fonctionné pendant toute la guerre froide.
Et donc, est-ce que ce principe marche quand on a une guerre aux frontières de l'Union européenne, en Ukraine ?
Alors, je ne dis pas que le principe ne marche plus, mais en tout cas, il est fortement remis en cause. Et il est remis en cause depuis quelque temps déjà. D'une part, on s'est rendu compte que l'Amérique nous défendait peut-être, mais défendait surtout ses intérêts, et que ses intérêts pouvaient être en contradiction avec les nôtres. Le premier doute des Européens, ça a été 2003, la guerre déclenchée par George Bush Jr., contre l'Irak et l'invasion de l'Irak, à mon avis, sans mandat des Nations Unies. Deuxième inquiétude, l'élection de Donald Trump. Quand Donald Trump a failli dire que l'OTAN c'était obsolète, il a dit que c'était obsolète et ensuite il est revenu à de meilleurs sentiments, mais une période pendant laquelle les Européens se sont beaucoup inquiétés pour savoir si un président comme Donald Trump respecterait la garantie d'assistance mutuelle qui l'article est contenue 5. Dans l'article 5 de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est pendant cette période que la défense européenne a fait énormément de progrès. Et puis, troisièmement, arrive Joe Biden qui a l'air de réconcilier tout le monde et qui aujourd'hui rassure tout le monde comme leader de la résistance ukrainienne contre la Russie. Mais enfin, quand même, on a eu une autre petite inquiétude due à Joe Biden à l'été 2021 avec l'affaire d'Afghanistan où le président américain annonce dans la presse qu'il va se retirer d'Afghanistan d'ici fin août. Il y avait 14 000 soldats européens en Afghanistan, sur sol, commandé par l'OTAN, qui n'était même pas au courant que les Américains allaient partir, qui ont été obligés de se débrouiller comme ils pouvaient pour partir. Et donc là aussi, les Européens se sont dit, après tout, même le plus démocrate des présidents peut nous faire une grande surprise qui n'est pas très agréable en Afghanistan. Et donc on a entendu ces alertes, mais on n'en a tiré aucune conclusion. Arrive la guerre donc l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est pour les Européens vraiment, moi, quand je dis un choc identitaire, je crois que c'est psychologiquement et philosophiquement très fort. Et donc là, on est d'une certaine façon à l'heure de vérité, c'est-à-dire est-ce qu'on va en tirer des conclusions, non pas pour bricoler comme on le fait d'ailleurs très bien des réponses pour l'instant à la guerre en Ukraine, mais pour réfléchir plus profondément à refonder l'Europe sur d'autres principes que celui de la foi dans le commerce et de la confiance dans les États-Unis. C'est ce que je souhaite, mais je ne suis pas sûre qu'on ira vers ça.
Merci Nicole Niesoto.
Merci infiniment à vous.